Bonjour. Nous commençons aujourd'hui une série de cinq petites émissions pour nous préparer à la béatification de l'abbé Pascal Vergès, un bigourdan pur sucre, pur fruit. Et cette béatification sera proclamée à Notre-Dame de Paris samedi prochain, le 13, grande célébration qui aura lieu donc à 14h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui sera retransmise sur KTO. J'espère que vous avez cette chaîne catholique qui vous permettra de vous associer à la béatification de Pascal Vergès. Bon, alors, ça tombe bien que cette petite série d'émissions commence un 8 décembre, parce que c'est le 8 décembre 1918 que Pascal Vergès, qui avait à l'époque 8 ans, est venu pour la première fois à Lourdes. Et il avait tanné, si j'ose dire, le curé et ses parents pour venir avant, mais c'était la guerre. Bon, et le curé avait promis, dès qu'il y aura l'armistice, on ira. Bon, armistice le 11 novembre, et donc le 8 décembre, le curé et toute la paroisse vient à Lourdes, et donc la famille Vergès, et pas seulement le petit Pascal, viennent à Lourdes. Et il gardera une grande vénération pour Notre-Dame de Lourdes. Alors, cette béatification de Pascal Vergès aura lieu parmi 50 autres. C'est un groupe de 50 qui va être reconnu bienheureux comme martyr, martyr de l'apostolat, ou on peut dire aussi martyr en haine de l'Évangile. Alors, j'ai employé un mot qui est faux. J'ai dit un groupe de 50. Ce n'est pas un groupe. Il se trouve qu'il y en a 50. Mais ce sont autant de destins un peu particuliers. Tout cela est lié, évidemment, à la guerre, à la persécution nazie, etc. Mais ça se passe un peu dans tous les coins de l'Allemagne. Alors, il y a eu des contacts les uns avec les autres, mais ce n'est pas un groupe, si vous voulez, avec un chef de file spirituel. En ce sens-là, les 50 martyrs de l'apostolat, donc morts, qui sont morts fin décembre 44 et surtout en 45, tout à fait à la fin de la guerre, c'est pas comme les carmélites de Compiègne, c'est pas comme les moines de Tibérine, c'est pas comme les martyrs de Corée, voilà, où il y a un nom en tête et puis on dira et ses compagnons. Non, c'est pas un tel et ses compagnons. Et je pense que, hélas, ça contribue au fait qu'ils sont peu connus, parce qu'il n'y a pas une personnalité extraordinaire qui aurait réuni et ranimé la foi, l'espérance et la charité des autres. Non, il n'y a pas de leader. Mais on pourrait faire une accolade entre ces 50 cas, le fait qu'ils ont non seulement été témoins de la foi, mais ils ont été des témoins actifs, donc d'un apostolat, d'où l'expression « martyr de l'apostolat ». Alors, ces 50, qui sont ces 50? L'abbé Pascal Vergès fait partie, sur les 50, fait partie des 10 prêtres. Mais pour l'essentiel, et je pense que le projecteur, s'il y a un tout petit peu d'écho médiatique, sera sans doute braqué plutôt sur les jeunes. Parce que sur les 50, 40 sont très jeunes. Ils ont entre 22 et 25 ans, à peu près. Et on verra pourquoi cette classe d'âge, c'est lié au service du travail obligatoire, les jeunes qui ont été requis et emmenés quasi de force en Allemagne. Parmi eux, il y a 19 jossistes. Je fais l'énumération d'abord. Vous avez 19 jossistes, c'est-à-dire des jeunes militants de la jeunesse ouvrière chrétienne. Vous avez 11 scouts, routiers. Voilà. Vous avez 2-3 indépendants qui ne appartiennent pas à un de ces mouvements. Ensuite, vous avez 3 séminaristes, vous avez 4 novices franciscains, vous êtes parti d'un groupe de 8, 4 qui sont morts, bon, qui sont morts martyrs, etc. Et puis 10 prêtres. Alors, tous les 40 premiers, si vous avez bien fait le compte, ça vous fait 50, les 40 premiers, je répète, sont très jeunes. Parmi les prêtres, il y en aura même un aussi qui sera très jeune, puisqu'il était né en 1922, donc il est mort, il avait 23 ans, il était encore très très jeune. Enfin, voilà. Donc, des gens très très jeunes. Alors, 19, j'insiste, parce que dans, pour le travail obligatoire, ben, les Allemands ont demandé plutôt des ouvriers, des gens qui... Bon. Et puis, à l'époque, ben, il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup d'étudiants. Il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Bon. L'agriculture, ben, il fallait quand même bien cultiver la terre, ne serait-ce que pour nourrir les Allemands. Bon, alors, donc, c'est plutôt le milieu ouvrier. Si j'ai regardé un peu ce qu'avaient fait ces 19 Jossis, la plupart ont travaillé dans des ateliers, dans les métiers les plus divers. Il y en avait pas mal même qui étaient dans le commerce, la boulangerie, un boucher, bon, les typographes, alors il y a aussi quelques-uns. Donc c'est extrêmement varié. Et ils font partie donc de ce mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne qui avait célébré son 10e anniversaire en 1937 à Paris, au Parc des Princes. C'était un mouvement extraordinairement dynamique. On peut dire que c'est un mouvement apostolique, mais c'est un mouvement profondément mystique. On ne comprend rien à leur martyr ensuite si on n'a pas cette dimension-là. Leur devise à l'époque, c'était fier, pur, joyeux et conquérant. Et l'objectif, c'était « nous referons chrétiens nos frères ». Bon. Après la guerre, on a un peu ridiculisé cette formule. L'apostolat chrétien, c'est quand même le désir de faire connaître l'évangile à d'autres, et donc ils redeviennent chrétiens. Voilà. Et donc, on a peut-être beaucoup rabaissé sur cette ambition, mais je ne vois pas comment ça ne serait pas l'ambition chrétienne que les autres connaissent la bonne nouvelle. Voilà. Donc, un mouvement militant très, très intense. Bon. Quant aux scouts, alors, le mouvement en France n'était pas non plus tellement, tellement ancien, parce que vous savez que ce n'est pas à l'origine un mouvement français ni un mouvement catholique. Enfin, il est arrivé en France, il a été reconnu dans sa version catholique dans l'entre-deux-guerres, donc c'était encore un mouvement relativement jeune à l'époque. Et la devise scout, toujours prêt, prêt aussi, prêt à témoigner de leur foi. Et puis, ensuite, donc, des séminaristes. Il faut savoir qu'il avait été emmené pour le service travail obligatoire 1500 séminaristes. Il y avait 1500 séminaristes, bon, sur trois classes d'âge, des jeunes nés en 1920, 21 ou 22. Bon, trois séminaristes et nos quatre franciscains. Donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont une formation chrétienne très, 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 très forte. Bon. On peut remarquer aussi, donc, que Jossistes ou les scouts, puis on pourrait dire les quatre novices aussi, ils sont quand même, ils ont des liens. Alors, je répète, les Jossis, ils n'étaient pas tous au même endroit. Hein. Les scouts non plus, ils sont répartis un peu partout. Mais ils ont fait partie, avant d'être emmenés en Allemagne, d'un mouvement très structuré. Voilà. Et donc, certainement, ça les a aidés. Ensuite, dans leur action, ils chercheront d'une certaine façon à continuer leur action, c'est-à-dire à coopter, à tisser des liens avec d'autres, à refaire des équipes. Enfin, on y reviendra. Alors, comment se fait-il que tout ça a été complètement oublié jusqu'à une date récente? Il faut dire que, bon, ça se passe plutôt tout à fait à la fin de la guerre. Bon. On peut penser à autre chose. Aussi, c'est lié au service du travail obligatoire en Allemagne. Donc, ça n'a pas bonne presse. Bon, le projecteur braquait uniquement sur la résistance armée, celle des maquis, bien sûr. Mais donc on oublie la résistance spirituelle. On pense, et ça c'est très bien, à témoignages chrétiens, les cahiers de témoignages chrétiens. On en reparlera dans une émission. Mais cette forme de résistance spirituelle en Allemagne même, hein, par ces jeunes qui seront martyrs de l'apostolat, complètement oubliée. Ça n'a commencé à émerger que dans les années 1980. Pourtant, au moment de la fin de la guerre, le père de Lubac, jésuite, très mêlé, donc, à témoignage chrétien, Lyon et tout ça, la résistance spirituelle par l'écrit. Voilà, bon. Elle me dit, mais on dirait que l'Église a honte de ses martyrs. Et il pensait à ces jeunes. Objectivement, j'étais complètement passé sous silence, même si presque chacun des cas, ils ont connu, etc. Il est mort en martyr, mais dans un sens un petit peu large. Oui, ça n'est sorti que dans les années 80. Alors, ça a abouti tout de même à la béatification d'un 51e, ou disons du premier sur les 51, Marcel Callot. Et Marcel Callot a été reconnu bienheureux par le pape Jean-Paul II à l'automne 1987. pendant le synode des évêques sur les laïcs. Marcel Callot était un breton fiancé, type absolument extraordinaire, dont on a pas mal d'écrits, de lettres magnifiques écrites à sa fiancée, un breton. Donc c'est le premier. Alors, bon, on a pu se dire peut-être à ce moment-là, bah oui, on a complètement oublié qu'il y en avait beaucoup derrière. Les 50 qui seront donc déclarés bienheureux le 13 décembre, 14h30, Notre-Dame de Paris.